Monde 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons à nous préparer aux fêtes du 8e centenaire, même si la municipalité de Cordes n'a pas encore annoncé qu'il y aurait des fêtes. Mais enfin, on pense quand même que ça se fera. Et en tous les cas, il y a des initiatives qui se prennent à droite, à gauche, un peu partout. Samedi dernier, il y a eu la Talvera qui a lancé un carnaval. Et aujourd'hui, nous allons parler de samedi prochain, où il y a un événement à Cordes, et qui va marquer, je pense, 2022 est marqué Cordes, et qui est lancé par qui est au musée d'art moderne de Cordes sur Ciel, et qui était animé par deux personne incontournable de Cordes et de l'histoire de Cordes. Je veux parler de Paul Sanda et de Françoise Segond. Je ne vous les présente pas, vous les connaissez bien. Bonjour Paul.
Bonjour Michel.
Merci d'être venu jusqu'au micro de CFM. Bonjour Françoise.
Bonjour Michel.
Bonjour. Voilà. Alors, donc il va y avoir le vernissage d'un ouvrage qui s'appelle Feu de braise, et il y aura à cette occasion une causerie de Paul Sanda je vais pas dévoiler ses secrets, mais sur le surréalisme et l'alchimie en lien avec l'histoire de Cordes. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Je vais pas en dire plus parce que nous avons la chance d'avoir et Paul et Françoise au micro de CFM. Donc Paul, je te laisse la parole.
Ouais, merci Michel. Bon, c'était une occasion extraordinaire, ce 8e centenaire. Ça m'a paru très important de pouvoir faire une historicité à Cordes de tout l'art littéraire qu'il y a eu à Cordes. Donc, il y avait eu déjà, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons, Jean-Gabriel Jonin avait fait quelque chose qui s'appelait « Ils ont écrit Cordes ». Oui. C'est une exposition qui était un peu le départ d'essayer d'exhumer tous les écrivains qui avaient été ici et qui avaient été passés à Cordes, s'en étaient inspirés. Et voilà. Et c'était à cette occasion d'ailleurs que les Cordais ont découvert énormément d'écrivains très connu
de l'histoire de Cordes,
dont ils n'avaient pas la notion, parce que en général on parle toujours d'Albert Camus parce qu'il avait fait cette préface à Claire Targobert et dans laquelle il met cette très belle phrase qu'on voit sur les murs de Cordes, mais on oublie qu'il y a Hector Malot. Ouais. Hector Malot qui a écrit Sans famille, qui a fait un passage extraordinaire sur Cordes. Prosper Mérimée qui a écrit un extraordinaire passage sur Cordes. Laurence d'Arabie, etc. Et énormément d'écrivains depuis le milieu du 19e siècle. Et donc moi, avec un ami à moi qui s'appelle Bruno Geneste, qui est un breton, il y a un an et demi, on a fait un livre qui s'appelait « Un siècle d'écrivains à Pont-Aven ». Donc, j'avais été en Bretagne, et puis Pont-Aven, c'est peut-être le Cordes breton, on va dire ça comme ça.
C'est connu. C'est
une ville très historique, voilà, avec une histoire de peintre, Gauguin, etc. Et on a écrit un livre donc sur tous les écrivains qui étaient passés à Pont-Aven. Et ça a eu énormément de succès, ce livre. Et puis du coup, comme il y avait le 8e centenaire, je me suis dit il faut faire aussi un siècle d'écrivains.
Ça, faut pas toujours travailler ailleurs. Voilà. Chez soi aussi.
Donc on s'est mis tous les deux. Alors c'était l'occasion parce que moi j'avais travaillé sur la Bretagne, puis lui s'est mis à travailler sur le Cordais. Alors oui. Il était très content, puis il a découvert un peu ici. Et puis on a découvert d'ailleurs des écrivains bretons qui séjournaient ici. Mais on en parlera plus tard parce qu'il y aura un truc. Et puis donc on a fait ça, et à l'issue de ce travail sur les écrivains, je me suis dit il va manquer quelque chose au niveau de la peinture. Et Françoise en parlera tout à l'heure. Donc je sais plus si c'est moi qui étais voir Françoise ou on a parlé comme ça, parce que elle avait acquis une presse à Lino et elle avait l'idée de la faire travailler et tout. Et bon, elle dira son idée ou son souvenir tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est venu de moi ou d'elle, mais peu importe. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire émerger aussi, de parler un peu des peintres.
Et les infrastructures de la sociabilité qui travaillent
complètement. Comme ça. Mais je voulais pas, moi, en tout cas, parler de tous les peintres qu'il y a eu à Cordes, parce que là, il faudrait peut-être un peintre ou un spécialiste, je sais pas, parce qu'il y a eu énormément de choses.
Temps,
oui, de Braillère, oui, etc. Oui, il y a quand même eu beaucoup de présence aussi. Oui. Bon, je dis ça, on peut s'ouvrir aussi à la photographie, à tout un tas d'autres choses. Hein. Si j'avais parlé de la photographie, il y a aussi des très grands photographes qui sont venus à Cordes. Oui. Voilà, il y a une histoire aussi à faire. Hein. Bon, moi, je suis un poète, donc je me suis plutôt occupé des écrivains. Mais du coup, étant aussi très imprégné de surréalisme, je me suis dit, tiens, ben, c'est peut-être l'occasion de parler des peintres surréalistes qui sont venus à Cordes.
Ah, d'accord.
Alors, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, j'ai créé en 2002 une maison qui s'appelle Maison du Surréalisme,
c'est ça, oui.
Qui avait toujours la vocation d'exhumer tout ce qui était surréaliste à Cordes et de montrer à tout le monde à quel point il y a eu une présence surréaliste à Cordes très importante.
Oui.
Soit dit en passant, de plus en plus, on va s'en apercevoir puisque, par exemple, il y a des très belles photos que j'ai redécouvertes qui ont été prises en 1952, 53, 54 dans la cour de l'hostellerie du Vieux Cordes, où on voit les œuvres d'Henri Salingarde à l'époque et voit André Breton, Georges Golfein, Wolfgang Palen, enfin énormément de peintres, d'écrivains qui sont venus. Dès les années 50. Donc, c'est un vrai trésor, en fait. Il y a un vrai trésor. Et il y a un vrai trésor au musée d'art moderne. Donc, c'est là qu'on va faire notre intervention. Il y a un vrai trésor de tableaux surréalistes, d'œuvres extraordinaires. Donc, j'ai dit ça. On a parlé avec Françoise. Et je lui ai dit, je vais te proposer 7 peintres qui ont, proche du surréalisme ou carrément surréaliste, qui ont à voir avec Cordes. Et je vais faire des portraits écrits, et puis toi, tu vas faire des portraits...
En linogravure.
En linogravure, voilà gravé. Et donc, de là, et peu à peu, on a fait émerger ce livre magnifique que vous allez pouvoir découvrir et qu'on va essayer de décrire tout à l'heure, techniquement. Et donc, on s'est avancé là-dessus. Alors... La présence du surréalisme à Cordes, et pour résumer, pour que tout le monde comprenne, à quel point Cordes a été un centre surréaliste. C'est pas simplement Cordes, puisqu'il y a un deuxième centre surréaliste très important dans le Tarn tout à côté, c'est Penn. Donc à Penn du Tarn, il y a eu aussi une présence surréaliste très importante. Oui. Donc dans mon livre, dans notre livre avec Bruno, donc « Un siècle d'écrivains à Cordes », on va parler aussi de Penn du Tarn, voilà. Autour de Cordes, il y a énormément d'écrivains. Hein.
Oui, voilà. Mais d'ailleurs, plus on s'intéresse à Cordes, sérieusement, plus on est obligé de voir le ruissellement.
Exactement.
Depuis le pêche de Mordaille.
Et voilà. Peut-être. Et là, je pensais justement, là, m'a traversé l'esprit à cet instant, un très grand poète qui s'appelle Maurice de Guérin et qui a vécu à Andillac, au château
tout
du
Pérou.
Et voilà. Et puis, il y en a d'autres à La Guépie. On pourrait presque remonter d'ailleurs à la famille, puisque le père de Balzac était originaire de par là. Hein. Donc, etc. On peut plonger depuis un siècle et demi, dans quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'à Cordes, donc, il y a une tour qui s'appelle la Barbacane.
Oui.
Et la Barbacane a été pendant presque 50 ans, à peine, mais 40 ans, on va dire, a été un centre surréaliste extraordinaire.
Ah bon.
Donc là, eh oui, voilà, Michel.
Ah, tout à fait, je découvre donc, et je ne dois pas être le seul, grâce à toi.
Donc, la Barbacane appartenu à Francis Meunier. Francis Meunier, alors, là, j'entame un peu notre livre, puisque c'est une des 7 figures du livre, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, Francis Meunier, il est né à Cordes, il est cordais, et il a été, à partir de l'après-guerre, l'ami d'André Breton et du groupe surréaliste parisien. Alors, Il habitait la Barbacane, c'est sa maison historique, natale, familiale. Et depuis la Barbacane, à part une éclipse où, justement, les années où Breton sont venus dans les années 50, parce que lui, il était instituteur, et il a été instituteur en Algérie pendant pas mal d'années. Donc là, il y a eu une espèce de...
De parenthèse,
voilà. Et quand il est revenu à la fin de la guerre d'Algérie, après la guerre d'Algérie, de nouveau, les surréalistes sont revenus ici. Alors, il faut bien savoir que c'est pas des petits membres du groupe surréaliste dont on parle, parce que les amis de Francis Meunier, je parle pas des écrivains là aujourd'hui, puisqu'on parle plutôt des peintres. Enfin, encore que les écrivains, il y en a des très célèbres. Breton, à commencer par André Breton, hein, ou René Char et d'autres. Mais il a, Francis Meunier, était l'ami de énormément de peintres, de Chéricault, qui n'est jamais venu à Cordes, mais qui était l'ami de Francis Meunier. Et puis, beaucoup d'autres qui sont venus, à commencer par Max Ernst, qui n'est pas non plus un petit peintre, et qui, Max Ernst, est venu en 1950 ici, resté 6 mois à Cordes, et a failli acheter la maison qui s'appelle Hurlevent. Ah bon. Cette maison, je ne sais pas si vous la connaissez, bon, je parle pour tous les Cordais, elle est en bas de la descente de la Peyrade, dont on passe le cimetière. Là-bas. Oui. Et au bas de cette pente, la maison qui est là s'appelle Hurlevent. Ah Albert bon. Camus aussi a voulu l'acheter, comme quoi cette maison avait un intérêt quelconque.
Voilà qui nous invite à nous promener dans Cordes, mais auparavant on fait une petite minute de musique.
Kafrine, yon bedi farine ton vi, le ou kopon pi la bibou, ou ara souvi. Kria li mon Kafrine, yon bedi farine ton vi, le ou kopon pi la bibou, ou ara souvi. Tiens beau, Tiens beau à l'effort. Si mon tel n'est pas si la terre, pour aller mettre son vide dans ma l'air, comme la peau donne à l'igaïa l'amour, pour vivre un bonheur. Si mon tel n'a pas si la terre, pour aller mettre son vide dans ma l'air, comme la peau donne à l'igaïa l'amour, pour vivre un bonheur.
Michel Bonnet avec Paul Sanda et François Segond. Alors nous continuons avec Paul notre promenade, on est parti de la Barbacane, voilà. On va descendre sur la Peyrade, alors ça. On te suit à travers les méandres de l'histoire récente.
Voilà, donc Francis Meunier qui était membre du groupe Surréaliste, tout un ami d'André Breton, il a beaucoup partagé avec lui à distance, et puis à peu, il est devenu ami de plein de surréalistes connus, et des peintres très connus. Alors Francis, il était lui-même peintre, il faut le savoir, il est poète, mais surtout peintre. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ceux qui viendront à notre vernissage samedi prochain avec Françoise sur ce livre pourront voir, ceux qui sont jamais venus au Musée d'Art Moderne de Cornes, la chance de pouvoir voir justement des œuvres de Meunier et énormément de surréalistes, parce qu'il y en a beaucoup là-bas au musée. Oui, il y a des œuvres absolument extraordinaires de Paul Klee à Juan Miró, etc. Hein, donc... je crois qu'il y a plein de cordées qui hésitent à aller. Il faut aller voir ça. C'est assez extraordinaire ce qui est là. Bref, donc Francis Meunier a ramené ses amis surréalistes, on va dire, progressivement à Cordes. Il y a une deuxième raison aussi, c'est qu'André Breton, dans les années 50, est venu s'installer à Saint-Cyr-la-Popie, qui n'est pas très loin.
Oui.
Et souvent, André Breton, puisque Francis Meunier à ce moment-là n'était pas là, il était instituteur en Algérie, venait à Cordes et il venait manger à l'hostellerie du Vieux Cordes, qui à l'époque était assez célèbre. Et il venait et il emmenait tous ses amis là, parce que il y avait un grand cordais qui s'appelle Henri Salingarde, qui a été un très grand brutiste, qui a fait des œuvres extraordinaires et dont la famille possédait le Vieux Cordes. Et on voit des photos dans lesquelles il y a toutes les œuvres de Salingarde. Salingarde est mort en 47, mais à partir de 50, Breton a amené tous ses amis, donc je l'ai dit tout à l'heure, Max Ernst, etc., Wolfgang Palen et bien d'autres sont venus à Cordes pour découvrir les œuvres de Salingarde et manger accessoirement à l'hostellerie. Et Max Ernst, venant ici en 1950, avait donc beaucoup aimé Cordes et est resté 6 mois. Et a tenté d'acheter une maison. C'est beaucoup plus ici. Il a laissé des œuvres qu'on a vues à une époque, mais qui aujourd'hui ne sont plus là, mais a été très présent. Et c'est pour ça que je devrais dire, au-delà de Francis Meunier, qui bien sûr est le cœur de notre ouvrage, Max Ernst est aussi présent dans cet ouvrage, puisque à cause de cette présence-là. Il y a un deuxième très grand peintre qui est connu, peut-être un peu moins connu que Ernst, qui est Hans Bellmer, qui est un très très grand peintre surréaliste, connu mondialement, et qui avait été pourchassé par les Allemands pendant la guerre, je devrais dire les nazis plus que les Allemands d'ailleurs, et s'était réfugié ici à Castres pendant la guerre, et donc dans l'après-guerre a fait des tableaux, était ami de Francis Meunier, et lui a même donné des œuvres, et aussi est venu à la Barbacane. Donc, puisque la Barbacane, vous l'avez compris, est le haut lieu du surréalisme de 1945, on va dire l'après-guerre jusqu'à 1995, en gros, donc 50 ans, et n'a pas arrêté de voir des peintres venir, des poètes, etc., venir chez Francis jusqu'à sa mort en 1995. Bon, ça continuait après, mais par son fils qui avait laissé la Barbacane ouverte à des artistes, on va dire jusqu'en dans les années 2005 à peu près. Voilà. Alors c'est pour ça que derrière cette attitude de Francis, beaucoup de surréalistes sont venus, dont je l'ai dit Ernst, Bellmer. Voilà. Après il y avait un deuxième cœur surréaliste dans le Tarn autour d'un très grand poète qui s'appelait Noël Arnaud, qui était un grand ami de Raymond Queneau. Donc et qui habitait Peine. Peine du Tarn. Et à Peine du Tarn, il y a eu d'autres poètes, d'ailleurs Jean Malrieux, des poètes très célèbres, et aussi des peintres surréalistes qui venaient, donc les Seigles, et puis surtout Aline Gagnère, proche du surréalisme, dont il y a aussi les œuvres au Musée d'Art Moderne de Cordes pour les mêmes raisons. Aline Gagnère, c'est la femme qui est présente dans notre livre, parce que sur les 7, il n'y a qu'une femme, mais elle a sa place tout à fait. Donc Françoise a fait un portrait d'Aline Gagnère et moi aussi. Et on peut voir aussi aujourd'hui les œuvres au musée d'art moderne de Cornes. Donc cette avancée surréaliste, les écrivains, les peintres, tout d'un coup En 1900, je vais remonter un tout petit peu, en 1948, il y a eu une très grande exposition à Paris, qui est une des grandes expositions de surréalisme d'après-guerre, qui s'appelle l'exposition Com. Et André Breton a désigné un peintre très spécial, qui s'appelle Maurice Baskin, l'a désigné pour organiser cette grande exposition. Et il lui a demandé de faire une exposition avec les surréalistes qui étaient physiologiquement jeunes, c'est-à-dire tous ceux qui étaient d'une génération née en 1925. Ah oui. Parce que André Breton et les autres, ils étaient nés en 1896, ah, ils avaient 20 ans de plus. Donc tous les jeunes. Et Maurice Baskin a rassemblé tous les jeunes, et c'est là qu'il a rencontré Francis Meunier, le Cordet, puisque Francis Meunier était né en 1925. Il a rencontré Baskin, et ils ont été amis, ils ont fait cette grande exposition en 1948. Alors, il faut imaginer que Francis Meunier, pour cette exposition, a fait un énorme tableau qui s'appelle « L'amour de la liberté ». Ce tableau est visible au Musée d'art moderne de Cordes. Mmh. Donc, il est très grand, il prend tout un mur. Et Francis Meunier a roulé ce tableau et l'a mis sur son vélo. Alors, c'est un tableau, quand vous le verrez, fait 3 mètres sur... il a roulé comme un tapis, si vous voulez, d'Orient. Oui. Et sur son vélo, il est parti à la gare de Vindrac, parce qu'à l'époque, je vous rappelle qu'il y avait le train qu'on appelle le train de Jaurès. Oh, c'est ça, donc, il a pris le train le soir à Cordes, et le lendemain matin, il est arrivé à Paris avec le tableau. Il a été à l'exposition, il a déroulé le tableau, et le tableau est exposé donc à l'exposition Com à Paris, dans cette grande exposition du surréalisme d'après-guerre. Fin de l'exposition, Francis a roulé le tapis, il est reparti dans l'autre sens par le train de Jaurès, il a pris son vélo en arrivant à la gare de Cordes, il l'a emmené et l'a mis dans la barbacane, sous son lit, roulé, et on l'a jamais vu depuis, il était là.
Ah bon?
Et c'est Jean-Gabriel Jonin, moi-même et Jean-Gabriel Jonin, en 2002, qu'on a retrouvé ce tableau et que Jean-Gabriel, créant le musée d'art moderne avec la municipalité de l'époque, a décidé de mettre ce tableau-là. Et il y est. Donc, ceux qui viennent à
notre... C'est une histoire vernissage, obscure, là,
voilà,
des bases.
Bien ajouter des anecdotes à tout ce qu'on raconte. Donc, cette présence surréaliste, avec une très grande activité dans la Barbacane, dont Francis invitait beaucoup de gens. Il y a eu des écrivains à venir, des peintres connus, certains qui ne sont pas surréalistes, le peintre Roudenève, peintres qui n'étaient pas forcément surréalistes, mais qui sont venus, qui venaient voir Francis.
Oui.
Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance de connaître un grand écrivain suisse dont je parle dans mon livre-là, donc un siècle d'écrivains à Cordes, qui s'appelle Alain-Pierre Pilet, qui était un ami de Francis Meunier et qui est venu aussi dans la Barbacane. Et puis, donc, c'est lui qui m'a fait connaître un peu Francis et toutes ses œuvres. Moi, quand je suis venu à Cordes la première fois en 1983, j'étais très...
T'es plus jeune.
J'ai vraiment aimé la non seulement Cordes, mais en fait, c'est à la fois cet univers très fort. Et donc, j'ai eu la chance, à partir de 2002 jusqu'à 2005, de vivre dans la Barbacane, grâce au fils de Francis Meunier, qui m'avait laissé la Barbacane à discrétion. Et j'ai pu faire l'inventaire des œuvres qui étaient là. C'est comme ça que j'ai trouvé les photographies de travail d'Hans Bellmer et beaucoup d'autres choses, une bibliothèque assez somptueuse, de laquelle j'ai exhumé beaucoup de choses. Et on trouve aujourd'hui au Musée d'art moderne aussi des œuvres de Jean Cocteau et d'autres personnes, tout ça vient de ce travail-là qui a été fait dans les années 2000 entre Jean-Gabriel Jonin et d'autres personnes qui ont travaillé avec moi à l'exhumation de ces trésors cordels.
Ces trésors, oui.
Voilà.
Ça fait bien des choses. On n'a qu'une envie, c'est d'aller plus loin, plus profond, etc.
Voilà, alors pour introduire ce qu'on est en train de faire, donc on a décidé avec Françoise de faire ce livre, donc On a fait dans l'ordre, en fait, elle a fait sept portraits artistiques. Donc, j'ai dit Max Ernst, j'en ai parlé.
Oui.
Baskin, alors oui, je viens juste Baskin, de l'effleurer, oui, mais on va en parler un peu plus après. Oui. Hans Bellmer, je l'ai dit. Oui. Et puis de Francis Meunier, donc oui. Aline Gagnère qui venait tout le temps à peine, qui et venait accessoirement entraîner ses guêtres à cordes et dont les œuvres sont visibles ici. Oui. Et puis il y en a donc deux autres dont j'ai pas parlé. Adrien Dax qui était toulousain et qui venait souvent ici et qui est très grand peintre aussi. Et puis Christian Dorgex, alors là, il a carrément habité ici 2 ans, non pas à Cordes même, mais dans un petit hameau dans la périphérie, là. Et il a travaillé 2 ans, voilà. Il a fait une grande rétrospective, il y a eu une très grande rétrospective de Christian Dorgex, de mémoire, je ne me rappelle pas, mais il y a 7-8 ans, 7-8-10 ans à Cordes.
Ah bon?
Extraordinaire. Alors, il est mort il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai eu beaucoup de liens avec ce peintre assez extraordinaire. Oui. Voilà. Et donc, il complète les 7 peintres surréalistes. Donc, notre livre s'appelle Feu de Bresse, à partir d'un titre de André-Pierre de Mandiard, qui était un écrivain surréaliste. Et donc, Max Ernst, Maurice Baskin, Hans Bellmer, Adrien Dax, Francis Meunier, Aline Gagnère, Christian Dorgex, 7 peintres surréalistes ayant arpenté la cité de Cordes-sur-Ciel. On a ajouté Bastide à la subtile couleur d'éternité.
Donc, à nous de nous promener dans les rues de Cordes pour les rencontrer ou rencontrer leur parfum. Et en tous les cas, la porte d'entrée, c'est obligatoirement le musée, quoi. C'est évident.
Pour les peintres, je pense que oui.
Pour les peintres,
pour les peintres, sûr, oui. Au moins pour découvrir une partie de ces œuvres-là, pour comprendre ce que ces gens ont fait. Parce que même si aujourd'hui, au Musée d'Art Moderne, on ne peut pas découvrir d'œuvres de Christian Dorgex, il y a quand même un catalogue de l'exposition qu'il avait fait là. Donc, un catalogue assez imposant. Il y a un catalogue d'Aline Gagnère, il y a ses œuvres. Il y a les œuvres de Francis Meunier et les amis surréalistes de Francis Meunier. Parce que là, je ne les énumère pas, mais il y en a un sacré paquet qui sont venus ici. On aurait pu faire un livre 20 fois plus gros.
La constellation.
Il faut faire des choix, voilà. Donc, Kujawski, Jaroslav Serpent, Stanislas Lelio, il y en a plein. Ouais. Donc, mais on peut découvrir ces grands peintres en allant au musée. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire de découvrir ça. Donc, moi, je vais faire une causerie autour du surréalisme et expliquer profondément ce que c'est que le surréalisme, disons en une petite demi-heure.
Ensuite, avant que tu nous dises quelques mots sur le... Mais quand même, si, il faut nous mettre un peu l'eau à la bouche, un apéritif.
Voilà. Allez, un petit peu. Puis après, on va parler du livre.
Voilà, on va prendre un petit moment de musique.
If you go away on this summer day, then you might as well take this sun away. All the birds that flew in a summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long. The moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, go away. if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look that I see on your face. Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly, tell you next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, I won't cry, for the good's gone, gone from goodbye. If you go away, if you go away, if you go away.
Corde 2022, Michel Bonnet, avec Paul Sanda et Françoise Segond. Alors, pour Sanda, nous met l'eau à la bouche, mais on cherche le verre et il n'y a rien dedans. Alors, Paul, à toi de continuer à nous ouvrir aux richesses cachées de cordes.
Oui, alors, très brièvement, et avant d'introduire à ce livre qu'on a fait, parce que, en fait, comme tu l'as dit, ou samedi prochain, on va faire un grand vernissage au musée d'art moderne et je ferai vraiment une causerie sur le surréalisme justement pour expliquer quels sont les fondamentaux du surréalisme et qu'est-ce que Francis Meunier et tous les gens dont j'ai cité tout à l'heure qui étaient des peintres cordais, des écrivains qui sont venus, qui étaient cordais, quelle était leur motivation. Alors, parce que le surréalisme, on s'est beaucoup trompé sur lui, parce que le surréalisme, c'est un mode de vie. C'est pas du tout une école littéraire ou je sais pas quoi, mais alors pas du tout. Et on s'est toujours trompé. Alors les gens qui disent, il y a toujours des universitaires pour dire alors c'est un mouvement littéraire. Alors on dit non, parce que il y a des gens qui étaient surréalistes, qui n'étaient pas ni littéraires, ni écrivains, ni voilà. Par exemple, alors je donne plein d'exemples. J'aurais pu dire il y a Jacques Lacan, il était psychanalyste, il n'était pas ni poète ni peintre. Ah bon, c'est vrai. On me dit mais les surréalistes, ils étaient homophobes. On dit, j'ai tout entendu. Alors, on dit non, il y a quand même Aragon, René Crevel, il y a un paquet d'homosexuels dans la bande. Ah bon, alors donc c'est pas encore ça le truc, parce que c'est toujours l'idée d'enfermer le surréaliste dans quelque chose. Oui, c'était des anticléricaux, ils étaient acharnés, athées, machin, etc. Alors je dis mais il y a Ernest de Jean-Jambard était curé et il était membre du groupe surréaliste. Ah bon, alors c'est encore pas ça. Ça. La question n'est pas là. En fait, le surréalisme, c'est mise en commun de la pensée entre des gens qui sont créatifs, qui veulent penser, en fait, en commun. Alors, en général, au bistrot, une fois par jour, d'essayer de réfléchir sur le fond. Et puis, d'apporter quelque chose qui va ramener des profondeurs inconscientes. C'est ça, ouais. Et alors là, les surréalistes, ils ont inventé tout un tas de jeux que j'expliquerai. Oui. Mais il y en a qui étaient très drôles. Il y a par exemple, il y a un jeu qui s'appelait Entrez, n'entrez pas. Alors c'est-à-dire que je dis un nom et puis tu dis si tu lui ouvres la porte ou pas. Et tu dois dire, si tu dis non, je lui ouvre pas, tu dois dire pourquoi. Et si tu lui ouvres, tu dois dire pourquoi. Donc si par exemple je te dis, je dis n'importe quoi, mais je dis le pape François. Entrez ou n'entrez pas. Donc tu peux dire non, moi je lui ouvre pas parce que ou au contraire oui je le reçois et je pourrais dire Hermann Göring ou n'importe quoi. C'est-à-dire donc l'idée c'est de créer en nous un espace de réflexion. C'est-à-dire alors le surréaliste est parti là-dessus dans les années 20-25 de partir sur quelque chose qui des jeux des choses comme ça, mais les jeux étaient prétexte à essayer d'aller chercher au fond de soi des vraies réponses en fait qui étaient cachées par la société, par le social, et voilà. Et de ramener quelque chose de plus vrai. Voilà. D'ailleurs, on aura peut-être bien besoin aujourd'hui de remettre un peu ce genre de choses. Donc, alors, c'est vrai que les surréalistes ont été plutôt révolutionnaires, qu'ils ont voulu changer le monde, beaucoup de choses comme ça. Bon, après, comme André Breton a dit dans les années 50, changer le monde, c'était le changer par l'élégance qui nous intéressait. Ce qui d'ailleurs ferait aussi du bien dans les débats politiques d'aujourd'hui. Oui. C'est un peu d'élégance, ça ne ferait pas de mal. Parce qu'il suffit de regarder un débat, puis on a compris qu'on n'est plus dans ce monde-là. Donc, voilà. Alors, bref, quand je dis bref, c'est bref, je ne veux pas déflorer toute ma conférence, mais quelque part, un vrai mode de vie différent d'une France ancienne, peut-être, qui a trouvé des échos ici à Cordes, parce qu'à Cordes, il y a ce lieu qui semble figé à travers le temps et qui apporte une force absolument incroyable à tous les niveaux de méditation, de repos, de distance, de tout ce qu'on veut, de créativité, de beauté, les a tous enthousiasmés les uns après les autres. Voilà. Francis Meunier était un peu réputé pour être un peu révolutionnaire, mettre le bazar à la mairie, au conseil municipal dont on parlait tout à l'heure. Donc il était très, très... Francis faisait des choses qu'aujourd'hui... En bon surréaliste, il faisait des choses assez dérangeantes et qu'aujourd'hui, il irait peut-être en prison s'il les faisait, parce que il pissait sur les touristes du haut de la Barbacane le matin quand il se levait. Ah oui. C'était quelque chose que... Parce qu'il avait un peu un mépris du tourisme de masse, déjà dans les années 80. Ah oui. Bon, aujourd'hui, c'est pas ça à Cordes, hein, puisqu'on les accueille, les touristes, au contraire. Hein. Mais c'est simplement pour dire dans quelle optique il était. Alors, il était un peu dérangeant. Il est mort sur les pavés de Cordes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Cordais qui sont morts sur les pavés, mais c'est dangereux, les pavés. J'ai souvent vu habitants à un moment dans la porte du vainqueur, des enfants se fracasser parce qu'ils couraient dans la descente.
Et puis, ils ne prenaient pas le virage.
Et ils finissaient avec la clavicule cassée. Et Francis, un soir où il avait bu un peu de perlé, parce que il était coutumier du fait, s'est fracassé et il est mort sur les pavés.
Ah bon.
Il fait partie peut-être des Cordais qui subissent la dureté de la cité.
De la cité, oui.
Bon, voilà, cette anecdote. Oui. Je ne veux pas parler plus loin de ça. Maintenant, je vais laisser la parole à Françoise qui va parler un peu du livre. Donc, il y a sept
planches.
Sept portraits de peintres.
Portraits.
Et puis, donc, elle a, avec sa presse, lino gravé. Alors, tu vas nous expliquer comment tu as fait ça.
Alors déjà,
ce travail absolument extraordinaire.
Avant de faire la linogravure, il faut faire un dessin original que j'ai fait sur du calque, directement sur le calque. Donc mes dessins originaux sont tous sur du calque qui après est reporté sur le lino avec du carbone. Donc j'ai reporté mes dessins sur le carbone et ensuite, avec des gouges adaptées pour faire ce travail-là, J'ai gravé directement dans le lino.
Ah bon.
J'ai gravé de façon à créer des blancs et des noirs, c'est-à-dire des bosses et des creux. Ah tout ce qui est blanc, ça va être en creux, et tout ce qui est noir, ça va être en bosse, puisque l'encre se dépose
c'est
sur les bosses.
C'est un malaxage de la matière.
Tout à fait. Et il faut savoir que l'image que je fais sur le lino doit être inversée par rapport à celle qui est sur le projet définitif. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut faire la gymnastique et inverser toutes les images et les textes aussi que j'ai gravés, les textes de Paul que j'ai gravés, qui sont, eux, ils sont pas noirs sur blanc, mais blanc sur noir. Pour des raisons techniques, c'était plus simple à faire, puisqu'il y a quand même 7 textes gravés. C'était quand même beaucoup plus simple à faire que de creuser et de laisser les lettres en saillie, en fait.
Alors, c'est pas très facile à montrer, mais montre à Michel. Et alors, il va essayer d'en parler, lui, un petit peu.
Voilà. Par exemple, la première, c'est ça.
Alors c'est tout un autre monde. Moi je m'attendais pas du tout à ça de toi. Enfin de toi, je veux dire, s'il y a rien de négatif là-dedans, tu comprends?
Oui, je comprends.
Tu vois, de la couleur, du foisonnement, en fait, tout ça, etc. Et là on se retrouve.
Là c'est du noir et blanc.
Du noir et blanc, un autre. Mais je trouve, mais ça c'est un peu mon atavisme.
Oui.
Je me retrouve porté vers le Moyen-Âge avec ça, tu vois. Et tout d'un coup je me dis mais je suis presque devant un manuscrit, tu
c'est
vois,
ça. Du beau papier qui est frangé,
voilà,
d'ailleurs.
C'est ça, je remonte au XIIIe siècle. Le papier est arrivé au XIIIe siècle, à peu près, quoi. Hein. Mais auparavant, il y avait les parchemins, ça donne cette impression-là.
Tout à
quoi,
fait,
hein.
Tout à fait.
C'est une impression de sérieux, quoi, tu vois. Je pense à l'Église, au pape à l'époque, qui avait interdit qu'on publie des textes, qu'on copie des textes de la Bible, de la parole de Dieu, sur du papier,
parce
que c'était pas sérieux, quoi, tu vois. Et comme quoi le support, c'est extrêmement important, hein, c'est le support, c'est le lien avec le, avec la matière,
oui,
j'ai envie de dire,
fait.
C'est l'insertion dans le cosmos, quoi. Et aujourd'hui, on est obligé de penser à ça. Mais, vraiment, tu nous ouvres un monde, enfin, à moi, le premier,
oui.
tu dans un monde absolument inconnu et qui invite à partir en randonnée en quelque sorte.
Alors, voilà le portrait de Christian Dorjex que Françoise a fait, donc Lino gravé, mon texte qui le présente. Il est très court, je vais le lire vite fait.
Comme oui.
ça, les gens verront aussi qu'il y a de la poésie dans cet ouvrage.
C'est ça.
Donc, c'est le portrait de Christian Dorjex, donc qui est venu à Corde, qui habitait Corde, enfin. Là, dans la vallée de Corde, du côté de Malbosque, là, par là-bas, pendant deux ans. À chaque fois, on a mis une citation de quelqu'un qui parle de Christian Dorjex. Et après, je fais un texte qui est le portrait qui, en fait, est en regard
du
travail
de
dessin et de gravure de Françoise. Donc, Christian Dorjex. Il désire, parmi les sillages que la mémoire décline, ancestrale et primitive, que l'on établisse la réalité du sang, l'élévation et puis le sacrifice d'une adoration de sa noblesse, qu'il accroche au flanc de la paroi quand le rasoir s'attache à l'effraction. Dorjex, Christian encore, comme un rapace, qui se projette à la splendeur des plus subtils secrets de la nature, en son drapé de grand apparat sera le seigneur du plus haut sens, à l'abrasion de la vie.
Eh bien, on va dire que là, on est, je dirais, embarqué.
Voilà,
c'est le mot, là. Donc, tu vas nous... Je dis à Françoise,
oui.
là, samedi prochain, tu vas nous montrer toutes ces...
Je vais présenter les matrices qui ont servi à confectionner le livre.
Ah, d'accord.
J'installerai toutes les matrices, comme ça vous pourrez voir,
les gens pourront
découvrir toutes les étapes. J'installerai aussi les calques qui m'ont servi au départ.
Et tu pourras
faire
donner quelques explications sur la technique que ça signifie, etc.
Tout à fait. Vous pourrez voir en direct la démonstration. Ah oui, alors Paul me montre le portrait de Francis Meunier, qui lui est le seul en couleur. Alors Paul, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi il est le seul en couleur.
Il est au centre et puis
c'est
le cordé natif.
C'est le cordé.
Et donc il y a 7 portraits. Donc 3 et 3, il y a un équilibre. Et au milieu, on s'est dit ça pourrait être bien de le mettre en couleur. Et Françoise a eu l'idée de faire ça. Alors en fait, comme les pages se replient de manière très particulière, en fait ici il est à moitié noir et blanc et à moitié couleur.
Et voilà, on a fait des mises en page un peu spéciales aussi.
Le livre est très complexe en fait dans sa fabrication.
Mais justement, cette complexité, c'est le surréalisme.
C'est surréalisme.
Alors complètement. Alors les œuvres de Françoise sont très surréalistes, très inspirées des surréalistes. Mes textes aussi et l'objet aussi, voilà.
Et donc
c'est complet.
Donc et là c'est tout à fait terre à terre, mais ça
oui.
doit jouer aussi quoi pour la diffusion de votre livre là. Comment ça va se passer là?
Alors en fait là on peut pas diffuser un livre comme ça parce que
oui,
on en a fait 22 exemplaires.
Exemplaires.
C'est déjà, ils sont tous signés, etc. Et d'ailleurs le 22e numéro 22 va être donné au musée d'art moderne de Cordes. Ah, alors c'est marqué pour le 8e centenaire. Donc c'est marqué pour le 8e centenaire de la cité. D'ailleurs
donc voilà une pierre qui va rester.
Et bien sûr,
comme les pierres de des portes.
Exactement, je crois qu'il y a un colophon, on appelle ça c'est la fin du livre. Oui. On a mis ça que le dernier exemplaire était offert spécialement pour le musée d'art moderne, voilà. Alors, puisque c'est, on va dire que ce livre est totalement inaccessible pour la plupart des gens, parce que il vaut un prix fou, et on va le vendre à 480 €, ce qui est cher pour beaucoup de gens, mais qui n'est pas cher vu le temps de travail
et tout.
Mais neuf mois de travail.
Donc, ça, c'est destiné à des collectionneurs, quelques-uns qui nous l'ont déjà réservé. Bon, ça, c'est le travail qui, voilà. Mais comme on voulait que les gens puissent y accéder, que tout le monde puisse y accéder, on a fait les éditions Raphaël de Surtees,
on fait un livre de poche,
le livre de poche avec
les illustrations,
sûr, avec les illustrations et les textes.
Et les textes.
Les textes, ça c'est formidable. Sans doute plus lisible que d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment artistique. Le texte est une œuvre en lui-même.
Oui, vrai,
voilà. Donc il n'est pas toujours lisible facilement, mais le livre est aussi à l'intérieur de ça.
C'est-à-dire
ceux qui ont le grand livre de luxe, ils ont aussi le petit tirage à l'intérieur. Et sinon, pour les gens.
Ce petit tirage, on peut se le procurer.
Ah oui, alors lui, il a été tiré à 200.
Voilà.
Et il est vendu 17 €.
Et donc, samedi, il y aura moyen de.
Exactement, il y en aura.
Il y aura de tout.
On pourra acheter le grand, si vous voulez acheter le grand et que vous avez des sous pour la collection. Mais sinon, vous pouvez acheter celui-là à 17 €. Alors, c'est le même, c'est exactement le même. Alors, il n'a pas la beauté extraordinaire de celui-là.
Oui.
Mais il y a les mêmes textes. Et pour ne pas désavantager ceux qui acheteront le petit tirage, j'ai fait une postface qui reprend un peu toutes les explications que je vous ai données tout à l'heure, de manière assez
plus facilement.
Plus facilement, parce que là, c'est un tirage plus public, on va dire, accessible à tous. Donc dessus, on a mis le Francis Meunier que tu as vu en couleur, mais dans la version dans la version moitié couleur, moitié noir et blanc, puisque Et puis comme Françoise a de l'humour et qu'elle a pas voulu nous laisser en reste, elle a fait nos deux portraits
à ma façon,
4 de couve. Et voilà, alors on est en noir et blanc dans le.
Je sais pas si on peut le montrer.
Dans l'ouvrage.
Je vois.
Voilà.
Très bien.
Donc, j'ai ma proverbiale casquette et puis. Voilà. Et puis il y a une version colorée.
Très bien. Eh bien, avec un monument supplémentaire dans les monuments de Cordes.
Oui.
Un événement supplémentaire.
Complètement.
Dans la vie de Cordes et en particulier dans 2022, c'est vraiment super d'avoir pu avoir ça.
On a décidé d'en donner aussi un deuxième exemplaire qu'on offrira aussi. Dans un musée qui est en construction, un musée d'art moderne qui est dédié entièrement, c'est un ancien abbaye, un cloître d'abbaye qui fait 5000 mètres carrés en Ariège, à Pamiers, qui est entièrement offert au poète toulousain Serge Peille, qui est un ami à moi, et à qui j'ai proposé à Françoise, et on était d'accord, d'en offrir un exemplaire pour son musée. Donc, il y en aura aussi exemplaire au musée de Pamiers.
Et Pamiers, à travers le conte de Foix et Raymond VII, c'est lié à Cordes.
Eh ben,
voilà.
Donc,
c'est indissociable.
C'est bien pour ça qu'on a accepté de faire ce don, et puis ça nous permet quand même d'être présents dans deux musées, sachant que on va essayer de vendre les autres exemplaires autant qu'on pourra permettre à ce travail de vivre. En tout cas, c'est très bien parti, le livre se vend déjà un peu, et le petit livre, et puis on a déjà quelques réservations sur ce livre de luxe.
Eh bien, il n'y a plus qu'à vous remercier énormément, d'une part, bon, ce travail, c'est un merci de la part de tous les cornets, mais surtout merci d'être venu jusqu'à CFM pour en parler. Avec et puis plaisir. Maintenant, il faut absolument que tout le monde, d'une part, soit là samedi, tous les vivants de Corse,
voilà.
Les vivants, alors, avec un V majuscule.
Voilà, je veux juste ajouter que j'ai pas parlé donc de Maurice Baskin. Alors, j'en parle, j'ai une minute. Alors, je vais parler de Maurice Baskin parce que c'est très important de savoir que l'essentiel de la cause. Alors, Maurice Baskin est un très grand peintre, un ami d'André Breton, oui. Le maître de Jean Dubuffet.
Oui.
Donc, c'est pas un rigolo.
Oui.
L'essentiel de ses œuvres sont à Cordes, au musée d'art moderne, il faut savoir. Il y a des œuvres à Beaubourg, à Paris, au centre Beaubourg, au centre Pompidou. Il y en a en Israël, au musée de Tel Aviv. Il y en a à New York, dans les musées de musée Guggenheim et d'autres musées. C'est une œuvre très importante. D'ailleurs, je le dis en passant, le grand triptyque qu'on peut voir ici au musée d'art moderne et devant lequel je vais faire cette conférence avec Françoise, a été en 1986 assuré par le grand collectionneur Arturo Schwarz pour la bagatelle de 10 millions de francs à l'époque. Ça dit bien la valeur du tableau. Donc, je dis pas ça pour le vendre, mais Cordes à ce genre de choses aussi dans son musée. Donc c'est important de le savoir. Il y a déjà une réservation de à peu près une quarantaine de personnes. Donc il y aura 70 places. Donc si vous voulez venir samedi au musée d'art moderne, venez avant 17h.
Avant 17h.
Sinon vous n'aurez pas vous risquez d'être tout
debout.
Au fond debout ou tout au fond. Donc voilà, alors Baskin j'en parle parce que c'est le deuxième plan, était un surréaliste et aussi un alchimiste.
Ah bon.
Donc je vais beaucoup parler de surréalisme, toute une partie comme je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, mais vraiment sur le fond cette fois. Et puis je parlerai aussi en deuxième partie d'alchimie et du travail, mais devant les œuvres de Baskin, parce que à la radio c'est pratiquement impossible de dire de quoi on parle, parce qu'il faut voir ces œuvres pour comprendre que je vais les expliquer et les décortiquer. Vous savez que si vous allez au musée d'art moderne, dans la salle Baskin, il y a un film qui a été fait par Jean Desvilles dans les années 2005 et qui explique toute une partie de ses œuvres avec Jean-Gabriel Jonin et moi-même. Donc c'est un film qui date de cette époque-là. J'invite tout le monde, effectivement, comme tu l'as très bien fait, à venir découvrir toutes ses œuvres et puis à venir découvrir notre livre Feu de braise et puis à nous écouter l'un et l'autre et puis voir les très belles plaques que Françoise va amener avec elle.
Voilà. Et venir, c'est participer à un événement, à la vie de Cordes, c'est devenir un vivant de Cordes.
C'est un lancement de 2022,
De 2022. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci à CFM de nous donner la parole. Et je vous dis donc à une autre fois, à la prochaine
merci
fois,
sur
Cordes 2022. C'était Cordes 2022 avec Paul Sanda et François Segond. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Painless.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.